Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
C'est la nouvelle grande biographie Fayard, le Pie XII de Pierre Milza, vient de paraître. Franck Ferrand saisit l'occasion de rouvrir un des dossiers les plus brûlants de l'histoire contemporaine. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Le pape Pie XII, proclamé vénérable par l'Église, en attendant une possible béatification, n'en est pas moins au centre, vous l'avez dit Céline, d'une grande polémique à propos d'un certain nombre de choix opérés par le Vatican pendant la Seconde Guerre mondiale. Sur ce point, comme sur bien d'autres, le travail de M. Milza est tout en finesse, tout en justesse, dans le même esprit si possible. Je vous propose de commencer cette émission par un rappel des principaux arguments avancés en faveur et en défaveur du pape Pie XII. Après quoi, nous développerons certains aspects, répondrons aux questions avec mon invité Bernard Lecomte, grand spécialiste de la papauté. Évidemment, nous attendons vos questions, vos interrogations. Je précise tout de suite que je me passerai volontiers des réactions irrationnelles ou épidermique, dans un sens ou dans un autre.
Et puis tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Sonia. Elle nous l'a envoyée via le compte Twitter de l'émission sur l'origine des mercenaires suisses que l'on voit apparaître à plusieurs époques de l'histoire.
Oui, à ne pas confondre avec la garde suisse pontificale justement dont je parlais l'autre matin chez Thomas Soto. Pour le moment, l'heure est venue de d'ouvrir le dossier en quelque sorte, j'allais dire de tirer sur la boucle, de desserrer la couverture et d'entrer dans ce sensible dossier Pie XII.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Nous sommes le 3 décembre 1963 au théâtre de l'Athénée. C'est la première parisienne de la pièce Le Vicaire de l'allemand Rolf Orhoute. Le metteur en scène François Darbon y dirige Michel Piccoli et Antoine Bourseiller. Les personnages du drame sont imaginaires. Il s'agit d'un jeune jésuite, Ricardo Fontana, qui, en pleine guerre, apprend de la bouche d'un SS repenti l'existence des camps d'extermination nazis. Il est évidemment complètement bouleversé et il va tenter de convaincre le pape Pie XII d'empêcher la déportation des Juifs de Rome en octobre 1943. Tentative sans lendemain, ai-je besoin de le préciser? Cette pièce a fait l'objet d'une adaptation au cinéma par Costa Gavras. Amen, et je pense qu'un certain nombre de nos auditeurs ont vu ce film. La pièce, aussitôt, est l'objet d'une polémique, on pouvait s'y attendre. Elle est une critique sans nuance des silences de Pie XII à propos de ce qu'on appellera la Shoah. À l'époque, je précise tout de suite que Pie XII est mort depuis seulement 5 ans. À Berlin, en terre protestante, la pièce a pu être jouée 2 mois d'affilée sans incident notable, mais à Paris, c'est le scandale. Des sifflets lors des représentations, manifestations importantes devant le théâtre, jets de boules puantes dans la salle, bref, j'en passe. L'impact sur l'opinion publique est considérable et très vite, on va lire des attaques contre cet auteur allemand de 31 ans de culture protestante et qui, comme presque tous les jeunes Allemands de sa génération, a fait partie des jeunesses hitlériennes. Mais surtout, on va voir aussi se développer en riposte, si je puis dire, des critiques extrêmement dures contre la papauté en général et contre Pie XII en particulier. À l'époque, il y a un demi-siècle donc de cela. À l'époque, les chroniqueurs, les éditorialistes, les historiens n'ont pas vraiment, me semble-t-il, su faire la part des choses. Et en préparant cette émission, quand j'ai revu les articles de l'époque, je me suis dit que on manquait considérablement de mesures, dans un sens ou dans un autre. Alors est-ce qu'on peut faire aujourd'hui preuve de davantage de mesures? C'est ce que j'espère, et la biographie de Milza me paraît être un encouragement dans ce sens. Alors d'abord, essayons peut-être de faire connaissance avec ce personnage, et plutôt qu'avec le pape Pie XII dans un premier temps, avec l'homme que dissimule ce nom de règne, le Romain Eugenio Pacelli. Je dis Romain parce que, oui, Eugenio est né à Rome en 1876. Il est né d'ailleurs pas très loin du trône de Saint-Pierre, puisque sa famille faisait partie de ce sérail de hauts fonctionnaires pontificaux que l'on voit dans la capitale italienne, ce qu'on appelle la noblesse noire qui avait soutenu Pie XI, 6 ans avant la naissance de Géniaud, contre, pas Pie XI, Pie IX, pardon, puisqu'on est à la fin du 19e siècle. La famille avait soutenu Pie IX quand le roi Victor Emmanuel II avait mis fin à l'indépendance des États pontificaux en 1870. Le petit garçon, qui va devenir pape un jour, est le 3e d'une fratrie de 4 enfants. Il a un frère et 2 sœurs. Sa mère est une femme douce, patiente, très religieuse, qui va d'ailleurs enseigner la religion à ses enfants. Pourtant, à 9 ans, on voit Eugéniaud quitter son école catholique pour entrer au lycée-gymnase royal, qui est une école publique, laïque, à réputation plutôt anticléricale. Voici ce qu'écrit Pierre Milza. « Dès l'âge de 9 ou 10 ans, la personnalité du jeune Pacelli présente 2 traits majeurs. Sa très grande piété et la passion qu'il voue aux études. À la maison, il joue à célébrer la messe et donne des cours de catéchisme aux fils des concierges des immeubles de la Via delle Vetrine. Tous les matins, lorsqu'il se rend à l'école avec son frère Francesco, qui entre en classe 1 heure avant lui, il met à profit ce temps libre pour prier dans la chapelle de la Madonna de la Strada. 2 fois par jour, il prie la Madone sous le regard attendri de sa mère Virginia. Il joue, cet enfant, du violon, du piano, il fait de la natation, de l'aviron, plus tard de l'équitation. Il intègre aussi, c'est moins inattendu, une association d'enfants de cœur. À 18 ans, il obtient son diplôme, l'équivalent du bac, si vous voulez, et sans même passer l'examen, d'ailleurs, hein, tellement ses notes sont exceptionnelles, on lui donne d'emblée son certificat, et c'est alors qu'il annonce à ses parents son désir de devenir prêtre. Oh, c'est pas une grosse surprise dans la famille. Sa sœur racontera, la décision ne surprit personne. Pour ce qui nous concernait, il était né prêtre. En 1899, donc, il est ordonné par Mgr Francesco Di Paola Cassetta, qui est un ami de la famille. Il devient professeur de droit canon à l'Institut Pontifical Saint-Apollinaire. Et dès 1901, il entre au secrétariat d'État du pape Léon XIII. C'est à ce titre qu'il va participer à la rédaction du fameux livre blanc sur la séparation de l'Église et de l'État en France. Vous savez, donc déjà un écrit très politique, très extrêmement sensible, auquel participe le tout jeune prêtre, ainsi qu'à une nouvelle codification du droit canon. Et bientôt, Eugenio Pacelli se retrouve en charge des affaires extraordinaires du service pontifical. Le voici nonce apostolique à Munich, puis à Berlin. Ça, c'est très important. Retenez bien cet aspect, parce qu'évidemment, ça va jouer un rôle, au moins dans les accusations qui seront plus tard portées contre lui. Il va participer à l'élaboration des concordats de Bavière, de Prusse. Et il fera aussi d'ailleurs un accord similaire avec les soviétiques dans les débuts du régime soviétique. Bref, il est tellement utile à l'Église qu'il est bientôt nommé cardinal. Il devient cardinal en 1929 et on dit que le pape, alors cette fois c'est bien le pape Pie XI, en 1936 aurait dit à des tiers en regardant Eugenio avec fierté, il sera un pape magnifique. Parole prophétique, puisque donc le 2 mars 1939, Eugenio est élu pape, il a 63 ans et à ce moment-là, le monde est au bord de la guerre.
De Mozart dirigé par Karajan sur Europe 1. Revenons avec vous, Franck Ferrand, à Pie XII et au tout début de la Seconde Guerre mondiale.
Vous voyez à quoi il ressemble, hein, Pie XII, grand, assez mince comme ça, fin disons, un visage toujours un petit peu grisâtre, des lunettes rondes sur ce nez aquilin, une peau de parchemin, c'est Michel de Saint-Pierre qui dira, la cruelle parenthèse de rides qui semblait vraiment des cicatrices de blessures, une voix claire, forte, un petit peu nasillarde et surtout une santé délicate, une fragilité pulmonaire qui va poursuivre Pie XII toute sa vie. Déjà en 89-90, on avait dû le retirer du lycée pendant un an, et au séminaire, il avait obtenu une dérogation pour pouvoir vivre chez ses parents. Bon. Quelqu'un alors en plus, il y a un petit côté, il avait des tocs, si je puis dire, Pie XII, hein, un côté très très maniaque comme ça, très 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 porté sur la propreté, effrayé par le contact physique. Il changeait de vêtements, il se désinfectait les mains après chaque audience. Vous voyez, la passion des oiseaux, celle de la musique, Bach, Beethoven, Verdi, Wagner, etc. Et puis, en dépit de ce caractère un peu éloigné des gens, si je puis dire, un cœur, un véritable cœur, un esprit très... quelqu'un de chaleureux, amoureux de la paix, timide, émotif, incapable d'exprimer une émotion violente sans bégayer, nous dit un de ses biographes, il s'enferme dans une attitude de dignité pour ne rien laisser paraître. Michel de Saint-Pierre a eu l'occasion de le croiser, de le rencontrer, et il écrivait, il parlait d'une extraordinaire autorité qui se dégageait de ce personnage en effluves magnétiques, et cependant, précisait-il, la bonté baignait constamment ce visage et l'accompagnait comme le faisceau d'un projecteur qui se fût déplacé avec lui. La mémoire de ce nouveau pape Pie XII est exceptionnelle, ça lui permet de prononcer ses grands discours sans une seule note. Il déjeune toujours seul, de façon frugale, pas de luxe. Son seul luxe, si on peut dire, c'est un petit verre de vin blanc de Frascati. Vous voyez, ça ne va pas trop loin. Et puis, et ça va lui être reproché, bien entendu, une certaine germanophilie. Il est ouvert à la culture allemande. La germanophilie du nonce Pacelli n'est pas en soi une donnée idéologique, écrit Pierre Milza. Elle date de la guerre de 14-18 et du rôle joué par le Saint-Siège dans la tentative de paix initiée par le pape Benoît XV. Elle est renforcée au vu des événements dont Pacelli a été témoin et acteur depuis sa nonciature munichoise et qui, qu'on le veuille ou non, sont à la source de son anticommunisme de choc. Encore un aspect qu'il faut bien noter et qui va être essentiel. Il faut peut-être que je vous parle de l'ambiance, du contexte de tout ça. Il ne faut pas oublier qu'en 1922, quand Mussolini et les fascistes ont pris le pouvoir en Italie, avec un anticléricalisme militant à l'époque, il a fallu que l'Église s'arrange, si je puis dire. Et Mussolini avait l'intention de se rapprocher de l'Église. Quant à la papauté, il faut que nous soyons clairs, le Vatican représente 400 millions d'hommes de par le monde et une politique intelligente devrait savoir utiliser cette force colossale au profit de son propre expansionnisme, disait-il. Voyez les arrière-pensées du Duce. Eh bien, en février 29, on avait donc signé les accords du Latran entre l'État et le Vatican. C'était Mussolini et le cardinal secrétaire d'État, Mgr Gaspari, qui avaient signé les accords du Latran. Pour mettre fin à ce qu'on appelait la question romaine, c'est-à-dire que l'État du Vatican et l'État italien se reconnaissaient mutuellement, avec Rome pour capitale, et on restituait à l'Église ses propriétés, c'est-à-dire la cité du Vatican en tant que telle, des basiliques, la résidence papale de Castel Gandolfo, etc. Et, n'oublions pas cet aspect tout à fait essentiel pour l'époque, on proclamait la religion catholique religion d'État. C'était la religion, on enseignait la religion catholique dans les écoles italiennes. Alors, l'Église, évidemment, a été constamment aux premières loges de toutes les évolutions des années 30 et à ce qu'on a appelé la course à la guerre. N'oublions jamais l'encyclique de Pie XI qu'on apprend à l'école, hein, l'encyclique « Mit brennender Sorge », ce qui en allemand veut dire « avec une préoccupation brûlante », et qui était une condamnation de la doctrine nationale-socialiste, de la divinisation de la race, du peuple et de l'État, écrivait le pape, incompatible avec la religion catholique. Elle a été lue partout, dans toutes les églises allemandes, en 1937. Or, cette encyclique est évidemment signée du sceau du pape Pie XI, mais celui qui la rédige, en tout cas en grande partie, c'est Pacelli, c'est le futur pape Pie XII. On est en 37, juste avant qu'il ne soit élu, vous voyez. Il n'y a pas de hasard d'ailleurs, bien entendu. Or, très vite, ce sont plus de 1000 ecclésiastiques allemands qui vont être jetés en prison. Et un an plus tard, 304 prêtres sont déportés à Dachau, comme nous disons. Les écoles confessionnelles sont interdites par l'État nazi, etc. Et là, Pacelli a pu mesurer à quel point la rétorsion pouvait être immédiate et violente de la part d'un régime insensé comme celui, incontrôlable à tout point de vue comme celui d'Hitler. Le 15 mars 1939, l'Allemagne envahit la Bohême, la Moravie. Je ne vais pas vous refaire la question des Sudètes. Hein. Bref, hein, c'est le morcellement de la Tchécoslovaquie. Pie XII va essayer de renouer le dialogue avec Hitler. Il propose de lancer une grande conférence avec l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, la France, la Pologne, une grande conférence de paix, sauf qu'on a déjà donné à Munich en septembre 38, on n'a pas envie de recommencer, bien entendu. Le 22 mai 39, c'est la signature du pacte d'acier entre l'Italie fasciste et l'Allemagne nazie. Le 23 août de la même année, vous savez que c'est le pacte de défense, le pacte germano-soviétique entre Hitler et Staline. Vous imaginez la place du pape dans tout ça. Pie XII va lancer un appel à la paix. Il suggère même à un moment aux Polonais de faire des concessions pour ne pas envenimer la situation avec les nazis. Ça lui sera reproché, ça, évidemment. Et il va enjoindre l'Allemagne et l'Angleterre à négocier pour éviter un affrontement. Inutile de vous dire que toutes ces exhortations restent sans réponse. En 1940, c'est encore Pie XII qui met en relation les alliés avec un groupe de résistants allemands dans le but de fomenter un coup d'État contre Hitler. Donc là, quand même, on a un engagement, si je puis dire. Et puis, vous savez que le pape va pousser le roi Victor Emmanuel, la maison de Savoie, à s'écarter le plus possible de Mussolini et à assurer une paix avec les alliés. Ce sera peut-être, même sûrement, à l'origine de ce qui se passe en 1943. On y viendra tout à l'heure. Ce qu'il faut vous dire aussi, c'est que le pape Pie XII avait des amis juifs, notamment un ami d'enfance, Guido Mendes, qu'il avait rencontré au lycée. Il avait même été partager un repas de Shabbat dans sa famille. En 1938, il l'aide, lui et sa famille, à fuir vers la Suisse. Et de la Suisse, d'ailleurs, la famille s'exilera ensuite en Palestine. On a comme ça un certain nombre de liens. C'est Bernard Lecomte qui, dans les derniers secrets du Vatican, nous raconte que le grand rabbin de Rome, Israël Zoli, doit la vie au fait d'avoir été hébergé avec sa famille dans l'enceinte du Vatican. Et d'ailleurs, nous dit Bernard Lecomte, il s'est converti au catholicisme et a baptisé son fils Eugénio du nom du pape qui l'avait sauvé. Le 27 septembre 1943, c'est la rafle du ghetto de Rome. Le commandant SS Kappler a convoqué le président de la communauté juive de Rome et l'a menacé de s'en prendre à l'ensemble de la communauté s'il ne recevait pas 50 kilos d'or dans les 36 heures. C'est du racket pur et simple. Il y a eu à ce moment-là un élan de solidarité incroyable dans la population. Évidemment, d'abord dans la population du ghetto, vous imaginez bien, on a récolté, on a recueilli tout l'or possible. Et puis on s'est très vite tourné vers le Vatican. Et Pie XII a complété la somme, 15 kilos d'or. On a même fait fondre des vases, etc. On a des photos de ça. Ce n'est pas un don, c'est un prêt. Et les deux parties ont bien insisté sur cet aspect, on y reviendra tout à l'heure. L'accord entre les SS et la communauté juive est rompu dès le 16 octobre 1943. Et là, il y a 365 SS qui débarquent au petit matin, qui vont arrêter 1259 juifs sur les 12 000 que comptait le ghetto, qui vont être envoyés à Auschwitz. Les camions sont stationnés à ce moment-là à quelques mètres des limites même, hein, des frontières, si je puis dire, du Vatican. Le pape est directement averti. Qu'aurait-il pu faire? Aurait-il pu empêcher ces déportations? Évidemment que je vais poser la question à mon invité dans un instant. Après le drame, Pie XII va ordonner à toutes les maisons religieuses d'ouvrir leurs portes aux juifs menacés. On les accueille dans les églises, les couvents, les monastères, etc. C'est ce qu'on va appeler la résistance au couvent, dans l'enceinte de la bibliothèque du Vatican, même à Castel Gandolfo d'ailleurs, la résidence privée du Saint-Père. Nombre de juifs seront ainsi sauvés. Alors, quand je dis nombre, quel nombre précisément? On parle de 3000, de 7000. Tout ça, en tout cas, montre bien une préoccupation de Pie XII à l'égard des Juifs qu'il connaît, de ceux qu'il peut protéger. Mais tous les autres, me direz-vous, eh bien, c'est là précisément que le bât blesse.
Pour réagir tout au long de l'émission, nous envoyez vos messages et vos questions sur Pie XII. Chers auditeurs, il y a la page Facebook de l'émission, les mails europe1.fr ou encore via Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH. Dans un court instant, la suite de votre récit, Franck Ferrand, sur l'attitude de Pie XII durant la Seconde Guerre mondiale.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Revenons avec vous, Franck Ferrand, à Pie XII durant la Seconde Guerre mondiale.
Ce qu'il faut vous dire, j'ai parlé tout à l'heure, Céline, de la germanophilie de Pie XII, mais ce qui est incontestable, c'est qu'il y a des Allemands autour de lui, des personnes qui ont été recrutées au moment où il était nonce à Munich en 1917, hein, à la fin de la Première Guerre mondiale. Son propre secrétaire, son secrétaire personnel, c'est le père Robert Lieber. Sa gouvernante, c'est la très célèbre, alors là, on va en parler évidemment, sœur Pascalina Lehnert. Son confesseur, c'est Augustine Béa, son conseiller personnel, c'est Mgr Ludwig Kass. Bref, c'est vrai qu'il y a tout un petit groupe autour de lui qui fait qu'on surnomme Pie XII le pape allemand. Et c'est aussi vrai que les liens qu'il entretient avec l'ancienne nonciature, etc., font qu'il est particulièrement informé de ce qui se passe en Allemagne et qu'il suit tout ça de très près. Il faut tenir compte aussi de l'incroyable réseau de renseignements dont dispose le Vatican. Vous savez, c'était déjà le cas, même encore plus qu'aujourd'hui. C'est toujours le cas aujourd'hui, mais à l'époque, c'était tout à fait extraordinaire au milieu du XXe siècle. Ce pape, demande Bernard Lecomte, n'avait-il pas conservé un peu trop de sympathie pour le peuple allemand ? N'était-il pas lié à des personnages peu recommandables, ne serait-ce pas à cause de cette empathie qu'il a hésité à condamner solennellement la Shoah et qu'il aurait favorisé, après la défaite du Reich, le sauvetage de certains dignitaires hitlériens et criminels nazis. On va y venir, ça aussi, parce que c'est une des questions les plus embarrassantes, évidemment. Le 20 octobre 1939, donc vous voyez, on est encore dans ce qu'on appelle en France la drôle de guerre. La guerre est déclarée déjà, mais l'offensive allemande sur l'Europe occidentale n'a pas encore eu lieu. Le pape va publier sa première encyclique de guerre, si je puis dire, Summis Pontificatus, où il écrit « Le sang d'innombrables êtres humains, même non combattants, a été versé et crie vers le ciel, spécialement celui de la nation qui nous est très chère, la Pologne. » Intéressant, on décortiquera tout ça tout à l'heure, mais voyez que l'intérêt, évidemment, si je puis dire, enfin l'intérêt du pape dans un premier temps, c'est pour ce qui concerne les catholiques, et notamment, en l'occurrence, les Polonais. Il va continuer à dénoncer les barbaries dans tous ses messages de Noël, notamment en 42, je cite « Ce vœu, l'humanité le doit à des centaines de milliers de personnes qui, sans aucune faute de leur part, par le seul fait de leur nationalité ou de leur race, sont vouées à la mort et à une progressive disparition. » Néanmoins, vous voyez, de leur race, on cite pas le nom des Juifs. Les termes sont très prudents, très généraux. On ne parle ni des victimes ni des bourreaux. Et ça va être beaucoup reproché à Pie XII, bien entendu. Le 2 juin 1943, il dit encore devant le Collège des cardinaux « Toute parole de notre part à l'autorité doit être sérieusement pesée dans l'intérêt même des victimes. » Peut-être que l'une des clés se trouve dans cette phrase. On verra avec Bernard Lecomte dans un instant. Il craint pour les fidèles, ce pape, ça c'est certain. C'est vrai que les risques de représailles sont réels, comme l'a montré l'initiative d'un certain nombre d'autorités catholiques et protestantes, on va dire écuméniques, des Pays-Bas le 26 juillet 1942, avec la condamnation de la déportation, immédiatement réponse du Reich, avec l'arrestation notamment de chrétiens, qui jusqu'alors n'avaient pas été inquiétés. Pour le pape, en septembre 1943, Hitler ordonne l'enlèvement du pape. C'est très important parce que évidemment que Pie XII s'est senti personnellement menacé dans cette affaire. Les Allemands auraient eu les moyens évidemment d'arrêter le pape. Ils pouvaient très facilement le faire. C'est Otto Wolff, semble-t-il, qui est le commandant en chef des SS et de la Gestapo italienne, qui va mettre un terme à cette initiative. Mais c'est passé assez près quand même. Alors, la question, évidemment, c'est de savoir aussi, et c'est peut-être la principale question, depuis quand le Vatican savait, pour ce qui est de la solution finale, pour ce qui est de l'extermination des Juifs. Un grand nombre de cris d'alarme avaient été poussés, si je puis dire, et l'on avait informé constamment les autorités religieuses. Donc, par voie hiérarchique, tout ça a fini forcément sur le bureau du pape, un jour ou l'autre. C'est une chose peut-être aussi de savoir ce qui s'est passé, c'en est une chose d'imaginer la réalité des faits, mais ça aussi, on va y venir dans un instant. Le fait est que du côté du pape, le silence est devenu bientôt assourdissant. Voici ce qu'écrivait François Mauriac très tôt, bien avant la pièce Le Vicaire, on est en 1951. François Mauriac écrit « Il reste qu'un crime de cette envergure », il parle bien entendu du crime contre les populations juives principalement, Il reste qu'un crime de cette envergure retombe pour une part non médiocre sur tous les témoins qui n'ont pas crié et quelles qu'aient été les raisons de leur silence. Et c'est un écrivain, tout ce qu'il y a de plus catholique, qui l'écrivait. Bonjour Bernard Lecomte, j'ai bien conscience d'avoir laissé en suspens un grand nombre de questions, mais après tout, vous êtes là précisément pour nous aider à y répondre.
Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, de Pie XII, avec votre invité Bernard Lecomte, journaliste spécialiste du Vatican.
Alors Bernard Lecomte, nous avons un grand nombre de questions que pose cette affaire Pie XII. D'abord, j'aimerais votre avis d'observateur, si je puis dire. Est-ce qu'aujourd'hui, la question vous paraît aussi tendue, aussi sulfureuse, disons-le, qu'elle l'était il y a encore 20 ans ?
Elle s'est un peu adoucie, mais elle reste un sujet de polémique à chaque fois que l'on évoque Pie XII, à chaque fois par exemple que l'on évoque à Rome la possibilité de sa béatification. Alors ça, c'est quelque chose qui ne passe pas chez tous les détracteurs de Pie XII, mais aussi, et on le comprend bien sûr, auprès d'un certain nombre de communautés juives qui sont restées sur cette idée que Pie XII n'avait pas fait ce qu'il fallait. Alors là, c'est ce que vous disiez tout au début de l'émission à propos du vicaire. La pièce Le Vicaire a marqué une date et nous sommes encore sous cette influence
avec
du
le
vicaire.
Avec le film Amen qui est venu par la suite.
Amen qui en 2002 est venu relancer avec d'ailleurs beaucoup d'objectivité. Le film était remarquable, le film de Costa Gavras. Simplement, il y a deux ou trois moments.
Il y a un parti pris quand même.
Voilà, il y a un parti pris. Et notamment, rappelez-vous, c'est l'affiche du film qui avait fait vraiment scandale.
Avec Mathieu Kassovitz dans le rôle du jeune Jésus.
Et en effet, cette affiche était scandaleuse puisqu'elle mêlait volontairement la croix gammée et la croix chrétienne. Donc là, déjà, le parti pris, il était sur l'affiche et il était excessif, bien évidemment. Mais revenons au vicaire. C'est en 63, en effet, que démarre ce procès des silences de Pie XII parce que, Franck, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que 5 ans avant, au moment de la mort de
1958.
Pie XII, en 58, le monde entier célèbre la grandeur de Pie XII, la générosité de cet homme. On célèbre le sauveur de Rome et le sauveur de Juifs. Et on se rappelle ce fameux télégramme du ministre des Affaires étrangères de l'État d'Israël, qui n'est autre que Golda Meir, et qui dit « Pie XII était un grand homme ». Donc pour les Juifs compris, Pie XII à ce moment-là était un grand homme. Et vient cette pièce Le Vicaire, vous avez parfaitement rappelé qu'elle est faite par un jeune, c'est très important, c'est une nouvelle génération qui se saisit de cette histoire.
L'auteur qui est toujours en vie d'ailleurs.
Oui, qui est d'ailleurs, qui a sombré dans le négationnisme, il a une mauvaise fin.
Oui.
Mais bon, à l'époque, il a 31 ans, il est conseillé par un vieux de la vieille de la dramaturgie berlinoise, qui est un anard anticlérical, un peu marxisant, qui s'appelle Piscator, qui lui sait très bien ce qu'il fait quand il reprend le texte et qui fait le récit. Lui, il y va franco, c'est Pie XII, sa cible, ça c'est tout à fait clair. Mais ce qui était très intéressant, c'est que en quelque temps, très peu, cette pièce a retourné comme un gant l'image d'un des plus grands personnages de ce siècle. C'est ça qui est fascinant. Il fallait bien qu'il y ait un terreau favorable, il fallait bien qu'il y ait des problèmes qui se posent, il fallait bien que des questions ne soient pas résolues pour que Le Vicaire ait tellement de conséquences jusqu'à nos jours.
Alors pour préparer cette émission avec Mathilde Saletchou, nous nous sommes bien sûr inspirés de vos propres écrits, les secrets du Vatican, les derniers secrets du Vatican qui viennent d'être réédités dans la collection Tempus. Vous avez consacré beaucoup de place, évidemment, à cette question Pie XII, ce qui va me permettre de vous poser toutes sortes de questions sur la vie du personnage, sur ses actions concrètes et sur les grands problèmes que pose son pontificat au regard justement de la guerre et de tout ce qui a pu se passer pendant la guerre. Un mot peut-être de la biographie que vient de faire paraître Pierre Milza. C'est une biographie qui se veut objective de Pie XII. Est-ce qu'elle remplit son objectif ?
Écoutez, c'est un livre remarquable. Je n'y vais
pas par
quatre chemins.
Tout à fait, oui.
Je l'ai lu avec énormément de plaisir. Vous savez, justement, pour faire les écrits que vous venez de citer, j'en ai lu des livres sur Pie XII. Et j'en ai lu vraiment beaucoup de mauvais. Parce que toujours, soit à décharge, soit à charge. C'est curieux comme ce sujet obscurcit la vision des historiens eux-mêmes qui ne peuvent pas s'empêcher de tomber dans un travers ou dans un autre. Et là, on a vraiment un remarquable récit. Milza, qu'on ne peut vraiment pas soupçonner, enfin, moi je l'ai eu comme prof à Sciences Po, on connaît bien Pierre
oui,
Milza.
Moi aussi, d'ailleurs.
C'est un homme qu'on ne peut pas soupçonner de
sympathie.
De sympathie excessive pour les papes. Hein, c'est l'homme c'est l'historien du fascisme italien, c'est le grand connaisseur de cette période. Et Milza fait un récit qui est extrêmement nuancé et équilibré. Et c'est de ça qu'on a besoin quand on arrive à traiter ce sujet. On a besoin de nuances, on a besoin de précision, d'exactitude. Bien sûr que cette époque de la guerre, c'est une gigantesque série de convulsions dont tous les récits sortent abîmés, incomplets, partiaux. Alors quand on touche à un sujet aussi pointu que l'attitude du chef de l'Église catholique à l'égard de l'extermination des Juifs. Chaque mot a son importance, chaque date, chaque citation. Tout à l'heure, vous citiez ce fameux radio-message de Pie XII à la fin de l'année 1942. Et en effet, quand il parle des races et qui ne cite pas le mot juif, voilà un cas où on a exactement l'illustration jusqu'où le pape pouvait aller sans aller trop loin. Il ne voulait pas citer le mot juif et pourtant il a condamné l'extermination de ceux qui n'avaient de coupables que leur race.
Ça c'est la première question, on va les prendre une par une hein, parce qu'on ne pourra pas tout évoquer, mais quand même on va essayer d'être le plus objectif et le plus complet possible. Première question, les condamnations. Il y a une première condamnation qui est écrite par le cardinal Pacelli et qui va être signée par le pape Pie XI, c'est Mit Brennender Sorge, ça c'est une condamnation sans appel du nazisme. On est bien d'accord.
Voilà, mais attention, qui ne touche pas à son aspect antisémite ou racial.
Et voilà.
On en est encore au régime politique nazi. On est, il faut le comprendre,
avant la guerre.
En 1937.
Oui, voilà, c'est ça.
Donc, c'est un écrit qui date de 35-36. Pacelli, en effet, y est pour beaucoup. Vous savez, à l'époque, Pie XI est très malade. Il a failli mourir même en 1936. Et en 37, donc, en effet, Pacelli est pour beaucoup dans ce texte. Mais là, pour le moment, il condamne un régime politique. C'est le nazisme allemand tel qu'il est exercé par Hitler et ses sbires. Donc on ne peut pas attendre de ce texte une évolution vers la condamnation de l'antisémitisme ou du racisme. Le pape Pie XI, d'ailleurs, aura sur son bureau une encyclique condamnant en effet le racisme et l'antisémitisme, mais il mourra avant de la terminer et de la signer. Donc cette encyclique qui existe, qui est un texte qui existe, on peut tout à fait le consulter, mais il n'est pas signé du pape, donc il ne vaut pas.
Les messages que va multiplier le pape Pie XII, même si à l'époque, évidemment, on n'est pas dans la société de communication comme maintenant, donc le pape intervient beaucoup moins qu'aujourd'hui. Enfin, tout de même, dans ses messages de Noël, notamment, qui sont forcément repris par tout ce qu'on peut considérer comme les médias de l'époque, le pape est quand même très clair. Mais quand je dis très clair, il ne cite jamais le mot juif. C'est,
voilà.
Mais pourquoi ?
Il a, si vous voulez, le pape a deux idées fondamentales. D'abord, il a déclaré clairement la neutralité du Saint-Siège dans le conflit. Il fait, entre parenthèses, exactement comme son prédécesseur Benoît XV avait fait pendant la guerre 14-18.
Oui,
et donc, il va avoir les mêmes reproches. Vous savez, quand les Allemands, en 1914, bombardent la cathédrale de Reims, tous les catholiques français sont stupéfaits de voir que le pape ne proteste pas. Pourquoi ? Parce que le pape a fait, lui aussi, cet appel à la neutralité. Le Saint-Siège restera neutre au milieu de tous ces peuples chrétiens qui s'étripent. Il restera neutre. C'est fondamental. Parce que s'il commence, évidemment, à donner tort aux nazis, quelle sera sa crédibilité après ? C'est ça son inquiétude. Donc, la neutralité du Saint-Siège qui va beaucoup gêner, au fond, le pape jusqu'en 1942. Et à partir de 1942, la neutralité, d'ailleurs, reste encore un objectif. Mais là, on a évidemment autre chose, c'est la crainte des représailles.
Et, voilà,
et ça, ça va être
alors,
constant.
Représailles contre les catholiques, c'est ça l'idée du pape ?
Contre les catholiques et contre les juifs. L'affaire hollandaise que vous avez rappelée tout à l'heure, donc les évêques hollandais font une protestation en chaire, donc on est en juillet 1942, et ça fait, évidemment, ça, on dirait aujourd'hui, ça fait le buzz. C'est un appel extraordinaire, condamnation absolue.
Un grand courage, oui.
La semaine suivante, les nazis arrêtent tous les juifs et chrétiens d'origine juive. Vous savez qu'il y a, parmi eux la philosophe bien connue, Edith Stein. C'est les chrétiens d'origine juive. Et tout ce monde-là est envoyé à Auschwitz. Quand on apprend ça au pape Pie XII, qui l'apprend évidemment très vite, il devient blême. Il sait, il comprend.
Il était déjà un peu de nature.
Il était un peu gris de nature, en effet. Mais il se rend compte que son appréhension à lui est juste. C'est-à-dire que si lui... Déjà que les évêques hollandais, c'était pas rien. Mais si le pape lui-même, d'un seul coup, prend à partie le monde entier sur les violences des nazis et sur l'extermination des juifs, le pape se dit, mais qu'est-ce qu'ils vont inventer? Et n'oublions pas qu'à cette époque, on est donc là en 42, cette époque de 42, on pense encore que l'Allemagne a de fortes chances de gagner la guerre. Et Hitler, qui n'est pas complètement idiot, ne cesse de dire aux uns, aux autres, aux diplomates, aux ministres, et fait savoir au pape lui-même, tout cela, on va le régler après la victoire. Et quand vous êtes le pape, si j'ose dire, vous êtes le pape, vous savez qu'après la victoire, on va régler les comptes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après l'extermination
des Juifs... Vous êtes en charge de millions d'âmes, c'est le cas de dire. Là.
Vous avez une responsabilité que, franchement, aucun d'entre nous ne peut juger. On peut l'analyser, on peut la disséquer, on peut évidemment
la
tirer des conséquences
même.
Et la critiquer. Mais juger l'homme paraît impossible. Et c'est, je crois, c'est un des grands plaisirs que j'ai eu en lisant le livre de Milza. À aucun moment... Pierre Milza ne se départit de sa neutralité d'historien. Il est parfaitement juste dans une direction, dans l'autre, mais jamais il ne juge. Vous savez, on est là en train de parler autour d'un micro à Europe 1,
c'est facile.
À l'époque, c'était quand même un peu plus compliqué.
Bien sûr, oui.
Et le pape a cette terreur-là. Il a cette terreur des représailles. On le sait, il a de 42 jusqu'à la fin. Il aura toujours peur de causer plus de mal que le bien qu'il pourrait faire en s'exprimant trop vite. Voilà, c'est ça. La neutralité d'abord, la peur des représailles ensuite. Si on n'a pas ces deux éléments-là, on ne comprend pas l'attitude de Pie XII.
Était-il envisageable, demande Catherine par tweet, était-il envisageable que Pie XII ait porté l'étoile jaune pour, comme l'ont fait un certain nombre, par exemple, des souverains d'Europe du Nord, par exemple? Est-ce qu'il aurait pu?
De la part du pape, non, c'est pas possible, c'est même inimaginable. Ça serait une provocation absolue pour les Allemands, pour beaucoup de gens d'ailleurs qui ne supporteraient pas.
Y compris pour beaucoup de catholiques non allemands d'ailleurs.
Bien sûr. Et je crois qu'il faut, autant dans le film Amen, on sent bien cette espèce de formidable geste de ce prêtre, ce jeune jésuite Fontana, qui justement se colle l'étoile jaune sur la soutane et part lui aussi vers Auschwitz. Évidemment, c'est formidable, mais de la part du pape, non, ça c'est pas possible.
Alors nous allons venir à toutes les autres questions sur ce que le pape savait, sur ce qu'il a fait concrètement, sur ce qu'il aurait peut-être pu faire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Pie XII est au cœur de l'histoire avec vous, Franck Ferrand, cet après-midi. Votre invité, Bernard Lecomte, journaliste spécialiste du Vatican, auteur d'un coffret comprenant les secrets du Vatican et les derniers secrets du Vatican dans la collection Tempus aux éditions Perrin.
Alors évidemment, les questions sont très nombreuses. Je pourrais pas me faire l'écho de chacune, ça évidemment, mais quand même, j'en choisis d'intéressantes là. Hubert, également par Twitter, nous demande qui était le secrétaire d'État à l'époque et est-ce qu'il a joué un rôle? Est-ce qu'il a influencé Pie XII?
Alors, quand Pie XII est élu, en 1939, il choisit le cardinal Maglione, mais Pie XII est un autocrate. Pie XII est un monsieur qui considère que, voilà, il dirige lui-même. Au point que lorsque Maglione va mourir en 1944, il ne le remplacera pas. Il va se faire assister de deux personnes, dont un qu'on va très bien connaître, Monseigneur Tardini et Monseigneur Montini. Montini, c'est le futur Paul VI.
Exactement.
Donc voilà les deux acolytes de Pie XII. Maglione est un exécutant proche. Lors de la rafle d'octobre 43, qui se passe, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, Franck, presque sous les fenêtres du palais apostolique, le pape immédiatement ordonne à Maglione de convoquer l'ambassadeur d'Allemagne, qui s'appelle von Weizsäcker, et c'est Maglione qui pilote l'entretien, donc il est présent quand même. Et Maglione et von Weizsäcker vont s'en sortir en disant, si ça continue, le pape va intervenir. Et c'est évidemment la grande ambiguïté, c'est que, ben voilà, c'est une menace
donc,
de menace.
Même, donc quand même un véritable magistère qui demeure, un rôle d'influence certain, puisqu'il y a cette menace, si je puis dire.
Alors, le pape est là, Maglione est là, toute la curie est concernée par ça, mais toute la curie va avoir cette espèce de plafond d'action qui est cette fameuse neutralité. On joue la neutralité. Comment pouvez-vous intervenir contre un des belligérants, même s'il fait des choses absolument horribles, si vous avez choisi la neutralité? Et là, on voit qu'au moment de la rafle de 1943, là, le pape est piégé à son propre piège, parce que quand je dis la peur des représailles, il a peur aussi d'une chose, toute simple. Il a caché, enfin il a contribué à cacher dans les monastères, les couvents, les séminaires, il y a des centaines et des milliers de juifs
et
qui
voilà,
sont cachés.
C'est ça. Oui, c'est et cette résistance au couvent dont
je parlais. Et donc le pape a tout simplement une trouille bleue, c'est que les Allemands envoient des commandos dans tous ces monastères, ces couvents, ces séminaires, ces endroits où sont cachés des juifs, en représailles. Mais et vous vous rendez compte, là, le drame que ce serait, ce sont des milliers de juifs qui sont cachés
à ce moment-là. Si j'étais un auditeur, là, j'enverrais une question, et je vous la pose donc, Bernard Lecomte, c'est l'avantage. Je me suis souvent posé cette question, est-ce que pour protéger ce qui peut se comprendre d'un point de vue humain, pour protéger quelques dizaines de milliers de personnes que le pape savait réfugiées dans différents endroits catholiques, etc., il n'aurait pas d'une certaine manière sacrifié des millions d'autres, voyez. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans des postes de responsabilité aussi importants que peuvent l'être ceux de pape, par exemple, alors là on est vraiment au sommet du sommet, est-ce que l'intérêt et la tension qu'on porte au petit nombre ne risque pas d'avoir des conséquences sur le grand nombre. Il faut peut-être parfois être un peu inhumain, si je puis dire. Je ne sais pas, c'est une question que je pose.
C'est la question clé à laquelle personne ne pourra jamais répondre. Parce que personne ne pourra jamais dire aujourd'hui « Oui, les nazis auraient fait ceci, auraient fait cela ».
Oui, là, on est bien sûr dans l'histoire fiction.
Les chiffres sont évocateurs. Il y a environ, la communauté juive de Rome, c'est entre 8 et 10 000 personnes. Cette fameuse rafle va envoyer à Auschwitz 1200 personnes. Pourquoi si peu? C'est parce qu'il y a déjà quelques milliers qui sont planqués dans les séminaires et les couvents. Donc le pape, en effet, l'a sauvé très exactement, très personnellement, quelques milliers de juifs. Et en même temps, il est vrai qu'on se dit, oui, ok, tout ça c'est formidable, mais un appel du pape à la conscience universelle n'aurait-il pas été essentiel à ce moment-là?
Là, je pose une question à l'historien maintenant. Est-ce que, à l'époque, le pape avait le même magistère moral qu'aujourd'hui? On sait qu'aujourd'hui, le Saint-Siège publie un communiqué quasiment tous les jours sur tous les sujets qui peuvent exister dans le monde. Est-ce que c'était la même chose en 1942, 43, 44? Est-ce que le pape avait la même voix, si je puis dire?
Non, il avait une voix beaucoup plus porteuse.
Plus porteuse, bien sûr. Eh oui.
N'oubliez pas que tous ces pays belligérants sont des pays chrétiens et souvent catholiques, que ce soit la Belgique, la France, l'Allemagne ou l'Italie et l'Autriche et la Pologne, tout ça, ce sont des chrétiens.
Alors justement, Patrick nous dit, est-ce qu'il n'aurait pas pu influencer Churchill, Roosevelt, les convaincre de tenter quelque chose à partir du moment où ils savaient pour la solution finale?
Alors, la question est très intelligente. Churchill et Roosevelt ont, à partir du milieu de l'année 42, à peu près les mêmes informations sur le début de l'extermination des Juifs. Rappelons pour nos auditeurs que l'extermination des Juifs en tant que telle démarre en janvier 42 à la conférence de Wannsee. Avant, c'est autre chose. C'est des commandos qui tuent, qui rasent des villages, etc. Mais ça n'est pas l'extermination programmée dans des camps et des chambres à gaz. C'est à partir du milieu de l'année 42 qu'on commence à comprendre qu'il se passe des choses absolument épouvantables. Churchill, pour faire simple, Churchill, Roosevelt et le pape ont les mêmes informations.
Oui.
Ils ont les mêmes échos.
Ce sont des informations étendues tout de
même. Ce sont des informations étendues, mais c'est très important. Ce sont des informations incroyables. Tout simplement incroyables.
Au sens propre.
Lorsque un Polonais qui revient des camps, qui a traversé l'Europe et qui va voir le chef de cabinet de Roosevelt, ce Polonais, vous savez, il y a eu deux missions polonaises, Karski et Novak. Ce Polonais va voir le chef de cabinet de Roosevelt et lui dit, écoutez, on croit qu'à ce moment, il y a 700 000 juifs qui ont déjà été exterminés. Et le chef de cabinet de Roosevelt lui dit cette phrase extraordinaire. Il dit, écoutez, si vous voulez être crédible, enlevez un zéro.
Ah oui.
Tout simplement parce que c'est tout à fait inimaginable d'avoir une extermination.
La réalité dépasse la fiction d'une certaine manière.
Et les hommes, les dirigeants politiques, les éditorialistes, les prêtres, les cardinaux, le pape, Tout ça dit, mais c'est pas possible. On n'a jamais vu ça dans l'histoire des hommes. Et les communautés juives elles-mêmes n'y croient pas. Vous savez, à l'époque, fin 42, la plupart des juifs d'Europe qui entendent plus ou moins parler de ces choses-là n'y croient pas. Personne n'y croit.
Alors, il reste peu de temps et j'aimerais poser ces trois questions qui me paraissent absolument essentielles, Bernard Lecomte. Donc, je compte sur votre brièveté, pardon, parce que ce sont des sujets, évidemment, sur lesquels on aimerait pouvoir s'étendre. Il y a la question de ce petit entourage allemand autour du pape et de la germanophilie du pape. Est-ce qu'on peut suggérer, est-ce qu'on peut admettre que Pie XII aurait été particulièrement bienveillant, d'autant plus qu'il était très anticommuniste. Il ne faut pas l'oublier aussi, cet aspect-là.
Ça, c'est tout à fait clair. Alors là, pour le coup, je renvoie au Pierre Milza, qui est formidable. Pierre Milza, en grand historien, fait parfaitement la part de germanophilie. Oui, bien sûr, l'entourage de Pie XII est composé d'Allemands. Bien sûr, Pie XII parle parfaitement l'allemand, connaît parfaitement l'Allemagne. Il a un contact direct avec les évêques allemands, qui sont un peu ses protégés. Mais et ça n'en fait absolument pas pour autant un antisémite ou un pro-nazi, absolument pas. Et dans son entourage, pareil.
Oui, donc c'est une chose d'aimer l'Allemagne et c'en est une toute autre de soutenir le régime nazi. Mais il faut que ce soit clair parce que on a quand même beaucoup dit un peu tout et n'importe quoi sur ce sujet très précis. La question, évidemment, qui est d'ailleurs liée à la précédente, du recyclage, si je puis dire, d'un certain nombre de criminels de guerre. Est-ce que, oui ou non, le Vatican aurait couvert certaines personnalités ?
Alors là, il faudrait une émission entière. C'est un formidable sujet. Mais comme vous le savez, les années 46, 47, 48, c'est une grande confusion en Europe. C'est très très compliqué de répondre à cette question. J'essaierai d'être tout simple. Oui, une partie de l'Église romaine a contribué à faire exfiltrer un certain nombre de criminels nazis. Alors, premièrement, sans toujours savoir que c'était des criminels nazis. Parce que n'oublions pas, il y a des dizaines de milliers de types qui se promènent avec des papiers, des faux papiers à ce moment-là. Comment faire la différence entre un pauvre gars qui essaye de filer ou de rentrer chez lui et de prendre un bateau, et puis un type qui est un criminel nazi, qui s'est volontairement enlevé ses épaulettes et qui fait le pèlerin de base. Il y a deux endroits dans Rome. Il y a l'aumônerie des Allemands, qui est tenue par Monseigneur Roudal, qui, en effet, celui-là, il est clair qu'il a contribué à l'exfiltration discrète d'un certain nombre de criminels nazis. Ça, c'est tout à fait acquis. Il y a une deuxième paroisse à Rome qui est tenue par un prêtre qui s'appelle Draganovic, qui est un oustachi croate et qui, lui aussi, va faire partir des anciens criminels, vous savez, de ce gouvernement fantoche de Anton Pavelic, qui est un gouvernement fasciste croate, là aussi. Donc, ces deux paroisses romaines, Monseigneur Roudal, la paroisse allemande, et le prêtre Draganovic, la paroisse croate, ça, c'est absolument acquis. Ce qui est à peu près acquis aussi, c'est qu'il n'y a aucune couverture du Vatican. Bien sûr, ces prêtres-là, ces communautés-là jouent sur... Ils demandent l'autorisation de visiter les camps de prisonniers, ils demandent l'autorisation de tamponner des certains papiers, etc. Bien sûr, et cette autorisation est accordée par l'entourage du pape comme par la Croix-Rouge internationale. La Croix-Rouge internationale a exactement le même problème. C'est une telle confusion qu'on ne sait pas qui tamponne quoi. Si vous voulez. Mais ce qui est sûr, parce qu'on connaît les rapports des diplomates, on sait tous ceux qui ont vu le pape et son entourage pendant toute cette période, c'est que cette procédure d'exfiltration, ce dossier terrifiant, est fait sans la couverture du pape. Ça, c'est sûr.
On aura bien compris que Pie XII a fait preuve d'une très grande prudence pour les victimes, comme il le disait, et qui étaient non seulement les juifs eux-mêmes, mais les catholiques, bien entendu, de tous les pays occupés. Est-ce que cette prudence est allée jusqu'à faire pression sur des cardinaux, sur des autorités ecclésiastiques ? Est-ce que le pape interdisait aux gens de parler, d'une certaine manière ?
Alors, au contraire, le pape, il y a une correspondance qui existe, qui est très intéressante, et notamment avec les évêques et les cardinaux allemands, où il dit aux archevêques et aux cardinaux allemands, c'est à vous de prendre la décision. Est-ce que, en protestant, vous prenez des risques ?
C'est vous qui savez. Parce que vous êtes sur place.
Et ça, c'est fondamental. Et cette correspondance-là, elle est évidemment dans le livre de Milza, elle est fondamentale parce qu'elle montre que le pape, justement, disait, mais on peut pas comme ça, un homme tout seul ne peut pas régler cette affaire. Il faut que dans chaque pays, on sache. Bien sûr, dans chaque pays, la situation était différente.
Je finis par deux petites questions qui vont appeler des réponses alors là, vraiment très courtes. Vidéo nous demande, est-ce que Pie XII sera canonisé un jour ?
c'est une question. Ça n'est pas impossible, si vous voulez ma réponse. Je dirais simplement que à Rome, les gens sont pas fous. La congrégation pour la cause des saints et puis le pape qu'on a en ce moment sont des gens extrêmement pragmatiques.
Scandale, disons.
Voilà. Est-ce qu'on canonise un sujet de polémique?
Voilà,
est-ce qu'on
ça,
peut
hein.
pas annoncer, avancer dans l'histoire, dans l'historiographie, dans les recherches, dans les études? Mais attendons 50 ans.
Il est urgent d'attendre.
Il est urgent d'attendre, évidemment.
Et puis une question alors encore plus simple. D'où vient le prénom Pi? Rien à voir. Là, c'est Pi 12 dont on parle. C'est pas Pi 314. Hein. Pi, c'est pieux, tout simplement. Pius.
Voilà. Il y a Pi. Pi premier était
comme quand
un
on parle
pape,
des œuvres Pi.
Voilà,
par exemple.
Dans, chez les Romains, Pius en latin, c'était le pieux, effectivement.
Le Pi 12 de Pierre Milza est paru chez Fayard, évidemment. Et puis tous ceux qui ont aimé l'incroyable clarté d'esprit de Bernard Lecomte la retrouveront dans Les Secrets du Vatican et Les Derniers Secrets du Vatican, paru en édition de poche dans un même coffret aux éditions Tempus.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Sonia. Elle nous l'a envoyée via le compte Twitter de l'émission. Sonia vit en Suisse depuis 7 ans et s'interroge sur les mercenaires suisses, leurs origines et leurs services pour la France.
À mon avis, Sonia se pose la question pour le 500e anniversaire de la bataille de Marignan, qui aura lieu le 13 septembre prochain, le 500e anniversaire. Puisqu'évidemment, vous savez que la France et ses alliés vénitiens, à l'époque, François Ier, se battaient contre, essentiellement, contre des Suisses et contre ces fameux mercenaires suisses. Qui étaient-ils? Ben, il faut bien comprendre que dans les cantons, à l'époque, il y avait beaucoup de paysans pauvres, qui cherchaient beaucoup à s'occuper entre des travaux réduits sur des périodes assez restreintes. Ils sont par ailleurs souvent de bons cavaliers, ils ont une très grande disposition à l'artillerie, donc ce sont de bons artilleurs, et ils vont se vendre, disons-le, au plus offrant, 14e, 15e, 16e siècle. Cette armée inconstituée, qui en même temps est peut-être la plus puissante d'Europe, eh bien va vendre ses forces tantôt à la France, à l'Espagne, au Saint-Siège d'ailleurs, et ils sont très appréciés, ces Suisses, parce qu'ils sont d'une ténacité, d'une fidélité, et puis par ailleurs, ils ne sont pas très chers. Il faut dire aussi ce qui est à l'époque. Et donc, ils vont s'engager comme ça. Et puis donc, François Ier finit par les battre, le tout jeune François Ier, hein, en 1515 à Marignan. Ça va être le début de ce qu'on va appeler la paix perpétuelle. Elle est signée le 29 novembre 1516. À partir de là, les Suisses ne peuvent plus combattre contre la France. François Ier, lui, obtient toujours le droit de recruter des mercenaires. Je ne veux pas vous parler de la garde suisse, des gardes suisses d'ailleurs, là ça nous entraînerait un petit peu loin. Il faudra attendre la constitution suisse de 1848 pour que le mercenariat soit définitivement interdit, mais la Suisse devient neutre, vous savez. Ça, c'est encore une toute autre question.